Voilà donc, on va avec Léo parler aujourd'hui de la situation linguistique et de la complexité, d'une double complexité que l'on peut observer en Russie, en République de Carélie, puisque donc cette république qui fait partie de la Fédération de Russie, qui se trouve au nord-ouest, à la frontière avec la Finlande, et le territoire d'un continuum assez intense qui va donc du finnois oriental au Veps, en passant par le carélien, le livi et le lude. Donc ces différentes variétés linguistiques qu'on peut considérer comme des langues ou des variétés collatérales, pour utiliser donc le terme de Jean-Michel Eloy, elles ne sont pas, ces différentes variétés linguistiques ne sont pas aujourd'hui officielles en Russie, en République de Carélie. Certains sont protégés comme des éléments de patrimoine par la loi. C'est, on le verra tout à l'heure, notamment le cas donc, pour la Carélie, du finnois, du carélien et du veps. Alors, ce que ces variétés linguistiques ont en commun, c'est qu'elles sont arrivées au XXIe siècle extrêmement fragilisées. Alors, pour utiliser la terminologie de l'UNESCO, certains sont en danger, d'autres sont déjà sérieusement en danger. Et elles ont toutes connu, pourtant, à la fin du XXe siècle, notamment dans les années 90, certaines initiatives assez intéressantes d'élaboration, de fonctionnalisation et de modernisation de corpus. Donc, c'est de ce continuum que nous allons parler aujourd'hui sur le plan sociolinguistique et sur le plan structural. Donc, pour ma part, je vais présenter un peu la situation linguistique donc en Carélie. Je vais parler de cette période qui a commencé dans les années 90 du XXe siècle, et je vais évoquer un peu plus en détail, mais très rapidement forcément, la situation de ces deux langues dont on parle peu, donc le livi et le lude. Ensuite, je vais laisser la parole à Léo pour vous présenter une modélisation déjà de la complexité sociolinguistique à partir de ce que je vais raconter moi, et ensuite donc il va également rapidement aborder la complexité structurale de ces différentes variétés. Alors, les langues phéniques, donc, puisque le carélien et le veps sont donc des langues phéniques, les langues phéniques font partie, bien sûr, des langues finno-ugriennes. Il y en a sept, donc le finnois, le carélien, le veps, le vot, l'ingrien, l'estonien et le liv. Alors, certaines de ces variétés sont discutables et très souvent discutées. Donc, par exemple, l'ingrien est le plus souvent présenté comme un dialecte donc, du finnois. Et en ce qui concerne cette partie-là qui va nous intéresser, donc cet ensemble carélo-veps, là aussi, la situation est assez complexe. Alors, vous voyez ici donc sur la carte qu'il s'agit d'un territoire assez important qui va donc de la Finlande à la Lettonie, en passant par l'Estonie et le nord-ouest de la Fédération de Russie. Alors, je disais que dans l'ensemble carélo-veps, la situation est complexe, puisque donc on distingue, et donc officiellement, y compris dans les textes législatifs, dans les différentes publications, entre ce qu'on appelle le carélien proprement dit. Alors, c'est la traduction qui est utilisée donc, dans un peu de publications en français qui existent sur cette variété-là. C'est la traduction donc, du russe Sobstvena Karelski. Ensuite, le carélien de Tver, de Tikhvin, de Valdai, donc déjà disparu. Le carélien holonétien ou le livi, le lude et le veps. Alors, le fait de parler des langues ou dialectes, le plus souvent, donc, j'utilise le terme de variété justement pour éviter, ce n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas anodin dans cette région frontalière, donc, et en plus caractérisée par une frontière assez sensible donc sur le plan historique, comme vous le savez très bien. Alors, ce qui fait écrire à Elena Simonato, donc chercheur suisse, que la définition du carélien en tant que langue ou dialecte, bon, n'est pas seulement une dispute de linguistes, la dénomination cache aussi des enjeux ontologiques et politiques. Alors, pour résumer en deux mots la situation, la République de Carélie est, même dans le contexte soviétique et russe, une république un peu à part hein, sur le plan linguistique, parce que le carélien n'est jamais devenu langue officielle, enfin, jamais été promu hein, langue officielle en Carélie. Alors je parle de la Carélie pour ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la République de Carélie, mais sinon, enfin, je vous épargne la complexité, c'est le cas de le dire, de l'organisation administrative de l'URSS et de la Russie. Il y a d'autres noms hein, qui ont été utilisés, voilà, donc la République soviétique socialiste de carélo-finnoise, etc., etc. Alors, jamais la langue officielle, tout simplement parce que la langue officielle en Carélie était le finnois. Hein, c'est une originalité, donc dans l'ensemble soviétique, et ça a duré jusqu'à dans les années 50. Alors, le développement des langues autres hein, que le finnois, qui s'est développé de toute façon hein, de son côté, forcément de l'autre côté de la frontière, le développement des langues autochtones est resté marginal, d'une part, et d'autre part, les Caréliens eux-mêmes, en tout cas les aménageurs locaux, n'ont jamais réussi à élaborer un carélien unique, hein, une variété unique. Alors, il y a des changements hein, dans ce domaine-là, notamment en 2007, il y a un alphabet unique qui a été créé, et cet alphabet subit des modifications, par exemple, tout récemment, à la demande des Ludes, justement, on a ajouté une lettre, donc la lettre Ts, pour remplacer, donc... voilà, l'alphabet unique que certains chercheurs caréliens considèrent donc aujourd'hui comme le premier pas vers la création de cet hypothétique carélien unique. Alors la deuxième langue de cet ensemble carélo-veps, donc le veps, a eu un destin différent parce que d'abord dans les années 30, les veps ont réussi à créer un veps standard, non pas en Carélie, mais en dehors de la République de ce territoire-là, donc dans ce qu'on appelle la zone veps centrale. Alors, création d'un veps, enfin du standard veps, mais en même temps, une réussite modeste puisque les travailleurs culturels ont été victimes de la répression, surtout à la fin des années 30, donc ensuite arrive la cyrillisation, puisque donc ce veps standard s'écrivait en alphabet latin, ensuite passage obligatoire à l'alphabet cyrillique, et puis bien sûr la russification. Alors deuxième occasion historique, les années 90, lorsque se produit cette fameuse mobilisation ethnique qui touche l'ensemble donc du monde finno-ougrien, et dans cette mobilisation ethnique, la langue donc a été l'élément central. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans les années 90, donc ce qu'on appelle le réveil de la conscience nationale des peuples finno-ougriens de la Russie, donc caractérisé par la normalisation-normativisation, certaines variétés, donc je sors là de la Carélie, hein, donc il y a d'autres bien sûr langues finno-ougriennes en Russie, certaines deviennent co-officielles avec le russe, d'autres se dotent, donc changent de système d'écriture ou rechangent de système d'écriture, passent donc de nouveau à l'alphabet latin, d'autres langues gagnent en vitalité, en Carélie, cela ne se produit pas puisque la seule langue officielle reste, comme c'était le cas depuis les années 50, reste le russe. Alors, malgré ça, il y a quand même eu des acquis assez intéressants. Donc, les langues autres que le russe, notamment le carélien et le veps, rentrent à l'université pour la première fois, c'est-à-dire qu'on crée des chaires de langues minoritaires. On crée aussi des nids de langues pour les écoles, au niveau de l'école maternelle, les médias dans les langues. Dans ces langues-là, les associations culturelles, l'édition qui se développe, y compris scientifique, donc pas seulement la poésie et la prose, et puis la création des clubs de discussion, donc qui ont aussi quelque part contribué à une certaine refonctionnalisation de ces langues-là, même si donc c'est tout à fait relatif. Alors, les langues gagnent en visibilité, donc une plus grande présence aussi dans le domaine public, et cela touche tous les domaines, l'enseignement, la recherche, l'administration, les médias, le corpus qui s'enrichit forcément, à partir du moment où on commence à écrire et on recommence à écrire dans ces langues-là, et puis donc la revitalisation qui est un phénomène dont on a déjà écrit sur ce sujet-là, suite à notre séjour donc, de terrain en Carélie en 2013, donc où nous avons précisément observer un peu les résultats de la revitalisation dans le monde veps. Donc une certaine résurgence, mais une fonctionnalisation quand même qui est toute relative. Alors, pour terminer donc ma partie, dans cet ensemble Karelovets, donc j'ai déjà dit que ce sont des langues fragiles, hein, aussi bien le carélien que le veps. Il y a à peu près 3000 locuteurs de la langue veps, et à peu près 10 fois plus de carélien, mais ça représente moins de 10%, hein, déjà pour le carélien, qui est la langue principale, on va dire la langue autochtone, de la population de la République de Carélie. Et donc, à l'intérieur, vous pouvez imaginer alors de ce continuum la fragilité du Livi et du Lud. Et pourtant, ces deux variétés pourraient être peut-être un peu plus fortes puisqu'elles sont un peu plus éloignées du finnois que ce n'est le cas avec le carélien. Pourtant, le Livi et le Lud ne figurent pas officiellement, hein, dans les textes de loi. Donc, notamment celui-ci que je cite ici, donc «Gasudarstvena i padeške, karelskava, vepskava i finskava jazikov», c'est-à-dire donc le soutien d'État, hein, rotatique, hein, donc au carélien, veps et finnois. Mais même si ces deux variétés ne figurent pas officiellement, alors, donc lorsque on pose la question, on vous répond oui, mais on peut les considérer, on peut considérer qu'ils se cachent derrière le terme de carélien. Cela dit, les choses ne sont pas aussi simples, comme le montrent donc les enquêtes récentes. Il y a beaucoup de flottements, hein, dans les identifications ethniques, entre guillemets, comme donc le disent ces deux chercheurs que nous avons eu l'occasion de côtoyer à Petrozavodsk, donc dans leurs travaux. Alors, elles écrivent, donc là je résume un peu, je sors quelques exemples de ces travaux. Les Ludes se disent caréliens quand ils parlent avec les Russes, mais Ludes quand ils parlent avec les autres caréliens. Les caréliens considèrent les Ludes comme des veps, et pour les caréliens proprement dit, hein, donc les Libis sont les autres caréliens. Alors, donc, avant de passer la parole à Léo pour donc schématiser un peu tout cela, donc pour conclure ma partie, je dirais que effectivement c'est un continuum qui se caractérise par une imbrication assez forte. Alors dans ce continuum, la langue la plus attractive est forcément le finnois. C'est ce que nous avons constaté donc à travers nos enquêtes. Finalement, c'est la langue qui motive même ceux donc, qui s'inscrivent aujourd'hui pour étudier le carélien et le veps à l'université. Ils le font parce que, justement, ces langues font partie de la même offre de formation que le finnois. C'est-à-dire, on s'est rendu très vite compte que étudier uniquement le carélien, uniquement le veps, ça avait ses limites, hein, donc les chaires étaient extrêmement fragiles à l'université. Donc aujourd'hui, on utilise le veps, le finnois et le veps, le finnois et le carélien. Et donc, la proximité de la frontière et donc de cet état de l'autre côté de la frontière joue vraiment un pouvoir attractif. Alors, de l'autre côté du continuum, le veps, une langue en sursis, 3000 et quelques donc, locuteurs, sur un peu moins de 6000 veps, hein, ceux qui se déclarent comme veps, très peu de locuteurs, mais en même temps, une forte mobilisation de la société civile qui a donné des résultats assez impressionnants. Et puis au milieu se trouvent le carélien, le livi et le lude. Alors, effectivement, on n'a pas réussi à créer un seul standard. Et les locuteurs, certains ne le veulent pas non plus, hein, donc là je cite un internaute, si pour la langue littéraire on choisit le livi, alors excusez-moi, beaucoup de caréliens proprement dit vont cesser d'être caréliens. À mon nom et celui des membres de l'association linguistique, donc Saint-Pétersbourg, je peux attester qu'après ça, nous allons passer seulement au finnois. Et puis en ce qui nous concerne, et c'est donc de cela que va parler Léo, on peut se demander si cette unification ne serait pas finalement artificielle, puisque sur le plan linguistique, on peut aussi voir les choses autrement. On peut très bien considérer qu'on a d'un côté le carélien et d'un autre côté un ensemble composé plutôt du veps, du lud et du livi. Et donc, je te laisse la parole avec la souris qui va aller.
Bonjour tout le monde. C'est toujours très difficile de prendre la parole après une star. La météo. Donc, aujourd'hui, il a fait chaud et humide. Ce soir, nous annonçons des orages. Pour illustrer donc, maintenant sur le plan structural la diversité des langues cyrilliques, voici donc la fragmentation dialectale que l'on trouve dans l'ensemble du domaine. Donc, je ne vais pas donner le détail, mais vous voyez que sur l'ensemble lacustre des côtes, densité de dialectes, et on a ici des grands espaces donc à l'est, du d'une part le dialecte du Savo et de l'autre l'ensemble Carello, Livre et le Vels. Et donc en gros, le peuplement de l'ère phénique s'est fait avec deux sources, en fait, d'une part du nord de l'Estonie vers le sud-ouest de la Finlande, qui forme cet ensemble, on voit bien la flèche, et d'autre part une source qui était davantage dans la zone lacustre orientale, qui s'est diffusée à l'époque plus récente, qui était une zone périphérique, qui s'est diffusée de l'est vers l'ouest, mais en restant quand on est vers. Est et l'Est. Ici, on a donc illustré quelques exemples de thèmes pour la cheville. Donc, on peut avoir Keta, ou bien Kessara, etc. Donc là, ici, ça donne une idée de la relation pour un ensemble d'isoglosses. Mais je ne vais pas détailler chacune de ces cartes. Ici, on a Narkan, le Pir et l'Asken que je descends, et un certain nombre de phénomènes. Donc, lié au consonantisme, lié à ce qu'on appelle la gradation consonantique, qui permet de voir se corroborer ces grandes lignes que sont les deux voies de peuplement, avec un peuplement, une extension plus récente à l'est. Alors, donc, maintenant, essayons de passons le côté qualitatif, le côté isoglossique, pour rentrer dans les détails de la structure. Et du point de vue polynomique, donc, comment on pourrait traiter en système complexe cet ensemble de langues, sachant qu'on a affaire non seulement à un déploiement, à un éventail dans l'espace, mais aussi un éventail dans les cerveaux, dans les compétences linguistiques, puisque en fait on a des répertoires, donc les gens vont avoir dans leur répertoire, chaque individu, enfin, chaque compétence linguistique va se répartir entre le russe, éventuellement le finnois, et une ou plusieurs langues phéniques. Et donc on pourrait, je vais reprendre une modélisation qu'on a utilisée avec des chercheurs espagnols et italiens sur les dynamiques de bilinguisme et les modèles de bilinguisme en compétition. Donc X pour la langue en situation basse, en situation diglossie de Fishman, hein, pas diglossie de Ferguson, mais diglossie entre langues typologiquement différentes telles que le finnois, donc les langues phéniques, en position 7. La langue officielle dominante, variété haute de prestige Y, et on va utiliser Z pour une langue latérale sur le plan géostratégique de finnois, mais qui en même temps, comme le montre le schéma ici, est collatérale structurellement de cet ensemble de X, donc qu'on peut décrire en XA pour le phonique, XB pour le carélien, ensuite détaillé en XC, XD, XE, XR, etc. Et l'idée, c'est que je vais parler bientôt de ces liens qui ne sont pas du tout anodins ni arbitraires. Une idée forte, c'est qu'en système complexe, on va attribuer des valeurs, des coefficients sur des calculs que l'on peut faire en simulation, par exemple en termes de planification linguistique, de quelle situation on part pour le verbe centre par rapport une langue, par rapport au phénique dans son ensemble, donc les indices de 0,2, 0,4. Jusqu'à 1 correspondent à une échelle de prestige ou une échelle de fonctionnalité que je vais maintenant davantage décrire avec ici des étiquettes en vert, les facteurs d'attractivité, en orange, je me suis planté dans la couleur, pardon, les facteurs de valorisation et de fonctionnalisation élargie, en bleu les facteurs structuraux, le continuum structural, et puis en rouge les facteurs de désaffection ou de diglossie déclinante, donc de perte de valeur. Alors donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est évident que russe et anglais sont liés dans les répertoires, dans les stratégies de répertoire par à la fois par la globalisation, mais l'anglais et le phénique, l'attractivité d'apprendre le phénique, par exemple, en termes de localisation, est renforcée par le fait que les langues phéniques s'écrivent en alphabet latin. Et donc c'est une excellente manière pour toute personne qui veut s'entraîner à apprendre des langues étrangères, et pas seulement l'anglais, d'exploiter son répertoire, la partie de son répertoire phénique, s'il est d'origine phénique. Et je pense à de nombreuses personnes qu'on a rencontrées qui sont étudiants, de toutes sortes de jeunes, parce que il y a aussi la question de pas seulement de l'attractivité, mais les conditions de réalisme de cette attractivité, donc la population jeune, donc peut être tout à fait motivée par la dynamique de localisation de la relation entre phénique anglais et russe. Le phénique par rapport au carélien sud, par exemple, le carélien sud plutôt par rapport au phénique est en relation d'élaboration de proximité. En fait, le carélien sud est la variété la plus proche du finnois. Donc, travailler son carélien sud est une façon, on est sûr de pouvoir acquérir rapidement le finnois ou d'autres langues phéniques. Pour le lydi, l'index est plus haut que le lydi parce que le lydi aurait un index 0,1 parce qu'il est en forte marginalisation territoriale et démographique, tandis que le lydi est au contraire, il a 0,3 ici parce qu'il est en situation de centralité, parce qu'il est proche, il est parlé dans une zone proche de Petrozavodsk avec un tissu urbain important, et donc on peut envisager des coefficients en fonction de ces critères. Par exemple, le fait que ce centre aurait 0,2 par rapport aux autres dialectes, parce que c'est la variété la plus élaborée de l'élaboration du corpus. Alors, tout ce dont vient de nous parler Xenia peut se modéliser aussi comme un réseau de communautés de trafic et de champs d'action pour l'aménagement linguistique dans l'air et le verse. On aurait un carré sémiotique avec d'une part éducation, recherche, d'autre part médias, édition, qui forme une sorte de polarité du système en interactif, en relais, et qui se trouve en zone haute de superstructure. Et puis, plus en bas, donc un deuxième axe, qui est la communication quotidienne, donc la vernacularité, et toute la dimension de cérémonialité, aussi toutes les micro-rites et ritualisations de la vie quotidienne qu'on a depuis par Erving Goffman dans les différents cercles concentriques de socialité élargie, de voisinage et de réciprocité dont a parlé ce matin Joanne Lavigne. Va être relayé par les médias et va avoir même, beaucoup d'associations ont leurs propres médias sur Internet. Et donc, on va projeter information et communication, marché, marchandisation, revitalisation, et dans la relation éducation-recherche par rapport aux communautés vernaculaires, la documentation de ces langues qui va parler, surtout en danger. Alors, si on casse un de ces liens, si vous cassez le lien entre éducation et recherche, information et communication, ça va avoir des effets sur médias et éditions, ça sont donc les grosses étoiles noires, mais les étoiles vides, la blanche, c'est pour juger de manière soit scalaire, soit non scalaire, non linéaire, on va avoir des effets en chaîne, on pourra remplir donc, en noir éventuellement ces différentes étoiles. Donc, si on casse ces liens ou ces relais entre éducation et recherche, ce qu'on voit ici, ça peut avoir des effets néfastes sur le lien entre le secteur cérémoniel et le secteur médiatique et toute la dynamique de marché de marchandisation qui peut conforter un certain nombre de stratégies en faveur de la valorisation du statut de ces langues. Ça peut avoir des effets aussi négatifs sur la radicalisation. Donc, en fait, en système complexe, on va travailler à partir de ce genre de modélisation d'ensemble, disons, et attribuer des coefficients. Alors, je vais terminer bientôt sur, je passe au deuxième point important, après avoir présenté donc, la question de modélisation de la communauté de pratique, de toute activité de relais, et aussi la pondération des unités du répertoire, des langues des répertoires, et face à la complexité structurale, donc les principaux paramètres typologiques. Je vais présenter trois dimensions, donc phonotactique et composante phonologique, expansion de catégorie morphologique dans la fonction verbale nominale, et les traces au résultat de fusion morphologique dans les exposants. Donc très rapidement, voici, quand vous regardez une liste des tableaux avec des données de ces langues finnois, carélien et verse, par exemple, vous allez dire, tout de suite, vous allez dire, mais il ne se passe pas grand-chose. En fait, on a un peu de voisement consonantique, des sibilantes alvéopalatales, là où ailleurs on a des alvéolaires, donc on a siéta en verbe, c'est siéta en carélien, bon, on a un pourcentage relatif d'harmonie vocalique selon les langues, on peut avoir encore des phénomènes de. Oui, alors ici par exemple, on a des fricatives laryngales qui sont plus ou moins ubiquistes dans les langues, dans leur distribution. Et donc ça fait un ensemble de paramètres que je vais maintenant mettre dans un schéma particulier en trois. Donc comme j'avais prévenu, en haut phonotaxe, en bas trace morphophonologique et au milieu du sandwich le jambon. Et là le jambon c'est la partie dure de la systémique de ces langues. Et là on n'est plus dans des petites fioritures de surface de petite palatalisation et heureusement. On est sur des langues qui peuvent avoir, par exemple, entre 12 et 18 cas, qui peuvent répartir des cas sémantiques, donc qui sont des directionnels et des positionnels, être sur, être dans, être dessous, venir sur. Ils vont avoir un panel complet, un très riche éventail avec 18 cas, d'autres comme le finnois n'en ont que 12 ou 13. Et le Livy, on a 16 par rapport aux 18 du verbe et pas plus dans son sens. Alors, en fait, là, on peut s'amuser à effeuiller la marguerite, c'est-à-dire que ici, j'ai mis des liens maximaux, mais j'ai un peu tout mis, mais pas au hasard, parce que tout ce qui est relève de la trace ici va avoir des effets morphophonologiques sur l'expansion catégorielle et sur les réalisations, les formes réalisationnelles. De la morphologie nominale d'une part et verbale d'autre part, de même qu'on va avoir des phénomènes de phonotaxe plus superficiels qui vont avoir une incidence. Maintenant, d'une langue à l'autre de ce continuum phénique, vous allez, comme au Mikado, vous allez retirer les baguettes, vous allez retirer les liens entre les langues. Et tout ça, c'est systémique, et c'est parfaitement mesurable, et donc là, nous ne jetons pas le système avec nos humains, on se donne les moyens de l'analyser. Et pour ça, il faut le modéliser avec des variables et des quantas. Vous avez le pourcentage d'harmonie vocalique et tout ça, ça se calcule avec des quantas, là, il revient en fonction de la distribution, même pour l'application de la radiale, plus ou moins utilisée. Donc, conclusion, on a tenté de montrer comment décrire la complexité de la situation des langues collatérales phéniques avec des outils de la théorie de la complexité du système complexe, en esquissant des points méthodologiques, notamment la pondération. La réticularité de répertoire. On a ancré nos remarques sur des observations de terrain dans la région de Petrozavodsk et sur la connaissance des méthodes qui se pratiquent en théorie de la complexité, qui relèvent de l'observation, modélisation et simulation, je rappelle. Et donc l'étape suivante, la prochaine étape, c'est d'implémenter des calculs sur les situations sociolinguistiques et même sociophonétiques observables, aborder le versant digital et computationnel dans une perspective d'écologie linguistique avec et donc allier la perspective interprétative ou herméneutique sans renoncer aux vertus de l'empirisme et d'un certain positivisme, qui est une démarche un peu plus salutaire en ces temps de sociolinguistique dérivant vers le postmodernisme où les langues finissent par ne plus exister, et y compris les systèmes à se dissoudre dans le relativisme, alors que les langues sont des systèmes un peu plus concrets. Et organisé de manière multicomponentielle, de manière holographique. Donc, merci. Kiitos, aite, palun, d'accord. Et donc, écrit, et trac, passez les pelles. Et mon compte, c'est ça.